zine que vous allez suivre est une rediffusion.
Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous et à toutes. C'est un parti politique qui commence à faire parler de lui et même à inquiéter hommes et femmes politiques en Belgique, le parti Islam. À l'approche des élections communales prévues en octobre prochain, le parti Islam multiplie les déclarations et suscite la polémique. Mais ce petit parti est-il capable de surprendre et de rencontrer un vrai succès lors des élections ? À Bruxelles, Laxmi Lota a rencontré l'un de ses fondateurs.
Donc vous voulez la charia, on est bien d'accord, ici.
On veut la charia, c'est-à-dire une voie qui nous amène vers la perfection. On veut une charia occidentale, parce qu'il n'y a pas que la Belgique.
Ça n'existe pas, mais
on n'osait même pas regarder la femme.
Dans cet extrait d'émission télévisée sur RTL Belgique, on entend Redouane Arouche, l'un des fondateurs du parti Islam. L'homme indique vouloir instaurer une charia occidentale dans le pays. Avant son interview, il refuse de se faire maquiller par une femme et durant l'émission, il ne regarde pas l'une des journalistes, pourtant assise en face de lui et qui lui pose des questions. Même attitude face à la secrétaire d'État à la lutte contre la pauvreté dans une émission de VTM cette fois.
Je n'en ferai encore une loi. Je vous écoute, je suis poli.
Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous ne voulez pas regarder des femmes ? Par exemple, ici à table.
C'est personnel.
Nous donnons rendez-vous à Redouane Arouche pour une interview. Il l'accepte en sachant que je suis une femme. Mais au dernier moment, c'est le président du parti qui arrive. Abdelhaye Bakali Tahiri m'assure que son collègue a eu un empêchement en raison de la grève ce jour-là. Il explique les choix de Redouane Arouche.
Il n'a pas levé les yeux, c'est n'importe quelle femme. Même la deuxième fois, quand il était invité sur le plateau de VTM, il n'a pas regardé non plus la dame qui était députée. Donc, je ne comprends pas pourquoi se focaliser sur un détail comme ça. Qu'est-ce que ça rajoute que je vous regarde ou pas ?
Et par contre, justement, si le journaliste avait été un homme et la députée un député, là, il change d'attitude ?
Certainement, probablement. Bon, écoutez, mais ça, c'est des affaires personnelles. De toute façon, tant que ça reste dans le cadre de la loi, de la Constitution, nous le soutenons. Je respecte votre culture, vous respectez la mienne.
Costume et écharpe verte aux couleurs de l'islam autour du cou, Abdelhaye Bakali Tahiri me salue en s'inclinant. Il ne me serrera pas la main pour me dire bonjour. Le parti Islam est né en 2012. Il réussit à faire élire deux conseillers communaux, l'un à Anderlecht, l'autre à Molenbeek. Dans le programme du parti, le recours au référendum, la fin de l'immunité parlementaire, ses leaders prévoient aussi l'autorisation du port du voile dans les services publics et à l'école. Plus généralement, la prise en compte des valeurs musulmanes dans la société.
Concrètement, c'est très simple. Maintenant, aujourd'hui, la femme, on l'empêche de s'habiller comme elle veut. Je pense notamment à ma fille qui s'est inscrite au Solvège avec son voile. Elle a participé à 5 séances. Puis elle a été convoquée à la direction. Et la direction lui a dit, écoutez, non, vous ne pouvez pas venir. Pour quelle raison ? Mais parce que votre voile, mais qu'est-ce que mon voile a à voir pour apprendre le solfège, à utiliser un instrument de musique ? Ah non, mais bon, ma fille, ce n'est pas une battante non plus. Elle me l'a dit en pleurant, etc. J'ai dit, moi, je veux bien y aller. Elle me dit, non, laisse tomber. Bon, ça va. Bon, ça, c'est le cas de ma fille, mais il y en a beaucoup qui... C'est pas une association, hein, c'est une école publique, hein, c'est même pas une école privée, c'est une école publique. Alors bon, où va-t-on ? Même pour apprendre la musique, il faut enlever son voile, je ne comprends pas.
Les déclarations des membres du parti Islam ont suscité de nombreuses réactions de personnalités de tous bords politiques. Pour Laura Tonkelings, députée fédérale PS, ce discours est toujours double, ce parti l'inquiète.
C'est un parti qui prend de l'ampleur. Là, ils ont utilisé une stratégie de la provocation qui, à mon avis, va les amener à connaître un succès plus important. Ils ont un double discours constant. Par exemple, ils disent « nous voulons imposer la charia ». Et puis tout de suite, dans les interviews, ils disent « oui, mais attention, la charia, il y a une double interprétation possible, c'est comme pour le djihad. La charia, c'est simplement des valeurs, c'est le chemin de Dieu pour les femmes ». Ils ont par exemple dit non, liste électorale, il faut un homme devant. Rien à faire. Et puis là, par exemple, à Anvers, ils viennent de décider que ce serait une femme qui sera tête de liste.
Dans la ville de Mons, le bourgmestre a décidé d'interdire tout rassemblement du parti islam. Certains demandent son interdiction pure et simple, Laurette Onkelinx.
Je suis favorable à ce que la Cour constitutionnelle en Belgique puisse interdire ce genre de parti. Parce qu'une démocratie doit se défendre. Au XXe siècle, les révolutions fascistes se sont faites avec les outils de la démocratie. Donc une démocratie doit se défendre. Voilà pourquoi je dépose une proposition de révision de la Constitution pour qu'on le prévoie.
Le président du parti décrié se félicite de ses réactions. Abdelhaye Bakali Tahiri.
Simplement parce que nous sommes un danger pour ces boutiques-là, c'est tout. Nous avons pris le taureau par les cornes, et nous avons décidé de faire notre propre parti. Et à ce moment-là, évidemment, nous devenons un danger politique, parce que réel, puisque nous sommes vraiment l'alternative par excellence.
Le parti islam espère créer prochainement un réseau européen des partis à connotation musulmane. Il assure avoir déjà des contacts en Espagne, en France et aux Pays-Bas.
Alors que le parti islam tente de s'ancrer dans la société européenne, les jeunes turcs, de leur côté, seraient-ils en train de se détourner de la religion promue par le président Recep Tayyip Erdogan? C'est ce qu'affirmait un rapport officiel qui a mis en émoi les autorités à Istanbul, Anand Lower.
C'est un débat comme les Turcs en raffolent dans une république où la religion a toujours été un sujet sensible, dans un pays dont le président est souvent accusé d'instrumentaliser l'islam pour mieux affermir son pouvoir. Ce débat se résume ainsi. Les jeunes Turcs rejettent-ils la religion pour se tourner vers le déisme, une croyance qui admet l'existence de Dieu sans accepter de religion, ou même vers l'athéisme qui rejette les deux? C'est ce qu'affirme un rapport discuté en avril lors d'un séminaire organisé par le ministère de l'Éducation à Konya, une ville conservatrice du centre de l'Anatolie. Le rapport livre des observations surprenantes sur une certaine jeunesse que beaucoup considèrent pourtant comme la plus religieuse, les élèves des écoles de prédicateurs. Or, il s'avérerait qu'un nombre croissant de ces élèves remettrait en cause leur foi, en raison notamment d'interprétations de l'islam qu'ils jugeraient archaïques. Vision d'horreur pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont l'un des objectifs avoués est de créer une génération pieuse, comprendre musulmane pratiquante. Les plus hautes autorités ont donc été appelées à la rescousse, dont la direction des affaires religieuses, qui régit le culte sunnite. Son président, le théologien Ali Erbash, a rejeté ces observations, affirmant, je le cite, « qu'aucun membre de notre nation ne pouvait accorder de crédit à une idée à ce point déviante ». Il en faut plus pour clore le débat, d'autant qu'il a en fait commencé il y a quelques années, de façon plus discrète, sous la plume d'universitaires et d'éditorialistes. Certains de ces chroniqueurs osent même avancer une probable explication. Ce serait précisément parce que les islamistes sont au pouvoir, et à cause de leur comportement, qu'ils éloigneraient les jeunes turcs de la religion qu'ils prétendent promouvoir.
C'est un pays que l'on connaît mal, isolé pendant des décennies par le dictateur Enver Hoxha. Un pays qui charrie son lot de clichés corrompus aux mains des mafias et de tous les trafiquants. Le journaliste Sébastien Colson a voulu remettre les pendules à l'heure dans son livre « Albanie, forteresse malgré elle ». Si le pays est bien dominé par la loi des clans et de l'honneur, il veut désespérément se rapprocher de l'Europe et sortir de l'isolement. Sébastien Colson avec Catherine Roland.
Effectivement, l'Albanie est un pays qui est resté fermé pendant une cinquantaine d'années, toute la deuxième moitié du XXe siècle. C'était un peu la Corée du Nord de l'Europe. Et aujourd'hui, quand on parle de l'Albanie, c'est pour la mafia, c'est pour la vendetta, c'est pour l'urbanisation qui est mal faite. Enfin voilà, tout un tas de mauvaises raisons qui font que l'Albanie jouit d'une image qui est pas très bonne en Europe de l'Ouest aujourd'hui.
C'est effectivement, vous le disiez, un pays qui a subi un long isolement et d'innombrables invasions et occupations au fil des siècles.
Oui, ça a toujours été la zone de contact entre l'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident, l'Empire byzantin, l'Empire ottoman. Après, ça a été l'Empire soviétique. Donc, ça a toujours été un point de contact. trois quarts du territoire est couvert par des montagnes qui sont pas très élevées en altitude, ça monte jusqu'à 2700, 2800 mètres d'altitude. Par contre, ce sont des montagnes qui sont relativement imprenables et il y a toujours eu le mythe de la forteresse, de la citadelle.
Justement, à propos de citadelle, vous dites aussi que c'est le pays aux 750 000 bunkers qui ont été édifiés pendant la dictature absolue d'Enver Hoxha, ce qui explique aussi le sentiment peut-être d'isolement et de pays un peu à part pour les Albanais.
Oui, effectivement, parce qu'au sein des pays d'Europe de l'Est, l'Albanie a toujours été extrêmement à part. Enver Hoxha a commencé par se fâcher avec Tito, ça aurait pu devenir la 8e République yougoslave entre 1945 et 1948, ça s'est pas fait. Ensuite, il a été stalinien, à la mort de Staline, il a refusé l'arrivée de Khrouchtchev, donc il s'est fâché en 1961 avec Khrouchtchev. Les Chinois sont arrivés, Enver Hoxha a fini par se fâcher avec les Chinois à leur tour. Et en fait, l'Albanie s'est retrouvée complètement isolée sur la scène internationale et Enver Hoxha, au fur et à mesure qu'il vieillissait, il est devenu complètement paranoïaque. Et donc, dans les années 70, il a complètement couvert de bunkers le pays.
Est-ce que cet isolement explique aussi le développement d'une culture proprement albanaise et notamment celle du clan ?
Oui, alors comme dans beaucoup de pays méditerranéens, le clan est la structure sociale de base. Les Albanais ont d'innombrables cousins qui se retrouvent un petit peu partout et donc toute la société fonctionne selon le clan. C'est-à-dire que même pour entrer en politique, en fait, il faut des amis, même pour avoir des avantages économiques, ça fonctionne encore aujourd'hui beaucoup comme ça.
Alors la culture du clan, elle a des avantages et de gros désavantages. Les désavantages, eh bien, c'est la violence qui est entretenue.
Ça maintient cette culture de la violence parce qu'il y a des vendettas, parce que il y a le système traditionnel du kanoun qui a refait surface après la chute du communisme où quand un sang est pris, donc l'autre clan doit reprendre un sang à son tour. Ce qui fait qu'il y a des vendettas qui durent sur des générations. Et puis, il y a aussi les énormes bouleversements géopolitiques qui ont lieu depuis 30 ans. C'est-à-dire qu'on est passé d'un pays qui était la Corée du Nord de l'Europe, un ultralibéralisme total. Donc, toutes les structures sociales ont explosé. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui se sont réfugiés dans la criminalité pour continuer à survivre.
Les Albanais sont assez défiants vis-à-vis du pouvoir politique à cause des dictatures passées, de l'oppression passée, des invasions, mais aussi parce que actuellement, ils observent une corruption qui gangrène toute la société.
Oui, alors la corruption, c'est un des phénomènes majeurs dans la politique albanaise. Donc ça a commencé à la chute du régime communiste parce que en fait les gens qui ont mené les privatisations donc des biens de l'État albanais se sont d'abord servis eux-mêmes. Et aujourd'hui, c'est vrai que le pays a vraiment du mal à sortir de ce phénomène. Il y a une réforme importante qui a été adoptée en juillet 2016 qui est la réforme de la justice parce que la justice était une institution très corrompue aussi, mais ce sont vraiment des petits pas, ça évolue très très doucement et c'est un des problèmes qui font que les Albanais quittent beaucoup le pays.
Alors, il faut souligner également que la société albanaise est multiconfessionnelle. D'ailleurs, vous écrivez, les Albanais peuvent s'enorgueillir de leur rapport plutôt décontracté à la foi.
Oui, il n'y a pas d'intolérance religieuse entre les Albanais. Même les musulmans peuvent boire de l'alcool. Ils en plaisantent beaucoup, c'est un sujet de plaisanterie récurrent. Parce que, contrairement à tous les autres pays des Balkans qui se définissent par une les Serbes sont orthodoxes, les Croates sont catholiques, les Bosniaques sont musulmans. Les Albanais se sont jamais définis par une confession religieuse, mais se définissent par une langue. Donc l'albanité, c'est pas du tout la religion, c'est le fait de vouloir vivre ensemble et le fait de partager cette langue.
Justement, c'est peut-être ça aussi qu'ils veulent faire reconnaître les Albanais qui en ont un peu assez des clichés justement sur les mafias, la violence. Ils aimeraient aussi qu'on les reconnaisse en tant que peuple qui a des qualités.
Bien sûr, et puis c'est vrai que la tolérance religieuse, c'est une des premières qualités. Quand on arrive à Tirana, on arrive à l'aéroport Mère Teresa, puisque c'est la citoyenne albanaise probablement la plus célèbre dans le monde. Et puis les Albanais, effectivement, ont des qualités gigantesques. C'est un pays qui est hyper accueillant. Du fait de cette fermeture, justement, il y a un appétit d'Europe, un appétit du monde qui est très fort chez les Albanais, qui fait qu'aujourd'hui, les Albanais sont vraiment un des peuples les plus accueillants en Europe.
Sébastien Colson, l'auteur de « Albanie, forteresse malgré elle » aux éditions Nevikata. Aux Pays-Bas, la crise semble de plus en plus lointaine avec une croissance de 3,2% sur l'année 2017. Le chômage, lui, est récemment descendu à 4,2% du jamais vu depuis 8 ans. Le problème, c'est que certains supermarchés ont pris prétexte de cette embellie pour doper leurs prix. Le point avec Antoine Moutot.
C'est Casa, une émission de la radio publique néerlandaise sur les droits des consommateurs qui a mis les pieds dans le plat. En un an à peine, les prix des produits ont fortement augmenté. Désormais, les clients de supermarchés déboursent en moyenne 8% de plus qu'au début de l'année 2017, sans pour autant remplir davantage leur chariot. L'enquête porte sur 5 grandes chaînes de supermarchés qui se partagent le secteur aux Pays-Bas, Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi et plus. Et dans toutes ces enseignes, les prix se sont envolés. Pourtant, les prix des marchandises elles-mêmes n'ont pas augmenté. Cité par la radio publique néerlandaise, un économiste affirme que ce sont les enseignes seules qui ont décidé de pousser les prix à la hausse. Selon Paul Moers, les supermarchés jugent que les Néerlandais peuvent désormais se permettre de dépenser plus. Le pays sort de la crise et l'économie connaît une embellie. Le spécialiste s'attend d'ailleurs à ce que les prix augmentent davantage au cours des prochains mois. Pour autant, la meilleure santé du pays n'explique pas à elle seule cette inflation dans les rayons. Le prix de la compote de pommes, par exemple, a augmenté en raison d'une mauvaise récolte. Quant au fromage néerlandais, si les étiquettes s'envolent, c'est parce qu'il est victime de son succès, de plus en plus demandé sur le marché européen.
Le bouquiniste du bord de Seine a un livre de 1816 en feuille de chou. Le bouquiniste du bord de Seine a un trésor daté 1816 en cuir de caribou.
Avec 300 000 livres d'occasion, c'est une immense librairie à ciel ouvert. Les 210 bouquinistes de la capitale, installés sur les quais de Seine, ont pourtant bien du mal à vivre de leur métier. Les marchands de souvenirs investissent les fameuses boîtes vertes, alors que les vrais amateurs se font rares. C'est un reportage de Christine Zibert.
Pour des touristes en balade, les boîtes vertes et bouquinistes le long de la Seine offrent un joli décor. Quand ils s'arrêtent devant un des caissons, le plus souvent, ce n'est pas pour feuilleter des livres, mais pour admirer les porte-clés Tour Eiffel ou encore les magnettes, ces aimants qui servent à décorer les réfrigérateurs.
Bah, y a pas mal de magnettes, plateaux de fromage, des croissants, des baguettes de pain, des bouteilles de vin, etc. Et puis Paris, ouais, c'est vrai, très Paris.
Une des 4 boîtes dont chaque bouquiniste parisien a gratuitement la concession peut contenir des articles de souvenirs. Le bouquiniste Alain Tanitkin respecte ce règlement et l'explique. Grâce à la vente de babioles, il agrandit ses stocks de livres.
C'est grâce à ça que j'achète les livres. Je peux vous dire que j'ai un stock énorme, énorme, parce que je craque, j'achète beaucoup. Après, pour les revendre, c'est plus la même histoire.
Les vrais bouquinistes ont du mal à joindre les deux bouts, affirme Stéphane Cronis. Et s'ils y arrivent, c'est grâce aux quelques vrais amateurs de livres qui restent.
Les irréductibles, des gens qui aiment les livres, ma génération, quoi, les gens qui ont besoin du papier pour avoir un plaisir. Voilà. Moi, je suis content, j'ai une belle bibliothèque. Mais j'en vis très mal, comme la plupart des bouquinistes. Je suis à peu près smicard sur l'année.
Ces dernières années, il observe l'arrivée sur les quais de marchands qui ne proposent plus aucun livre, mais uniquement des souvenirs. Pour Stéphane Cronis, la mairie de Paris devrait retenir uniquement les candidatures des spécialistes du livre.
Moi, je vois les 10 dernières années, tous les gens qui ont été nommés, c'est des gens qui vendent de la merde à touristes.
Un peu plus loin, quai de Conti, c'est l'emplacement de Jérôme Calais, le président de l'Association culturelle des bouquinistes. Pour attirer les professionnels des livres, il propose de faire un peu de publicité.
J'ai suggéré à la mairie de faire un mailing à tous les métiers du livre, que ce soit syndicat du livre moderne, syndicat du livre ancien et moderne. Enfin bon, les aviser qu'il y aurait, à une date X, il y aurait une commission qui se réunirait pour avoir des candidatures de gens qui sont concernés. Parce que j'entends trop souvent des gens me dire « Ah, je voudrais bien être bouquiniste, mais il faut 15 ans d'attente ». C'est faux. Ça a été vrai à une époque. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, si votre dossier il est bon, vous postulez et la commission suivante il sera retenu.
Et à plus long terme, il compte beaucoup sur une éventuelle inscription des bouquinistes à l'UNESCO pour sauver la profession.
C'est une démarche qui devrait nous valoriser, redonner confiance à certains de mes collègues qui parfois doutent un peu du métier et de son futur. Et puis en même temps, ça pourrait peut-être donner envie à nos élus de faire encore plus de choses pour nous. Parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où l'éclairage est un peu... Par exemple, je vois en hiver, beaucoup de mes collègues ferment à 5 heures parce qu'il n'y a plus de lumière.
Jérôme Calais a la chance d'avoir un lampadaire en face de ses boîtes, mais il n'est pas devenu riche pour autant. Il dit gagner tout au plus 1000 euros par mois. Le prix de ma liberté, dit-il, en désignant les environs, le Pont Neuf et le square du Vergalant sous un ciel d'été.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 17h40 en universel et tout de suite sur votre téléphone portable avec l'appli Pure Radio.